France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction avec Mathieu Laurent.
Bonjour Marie Sorbier, bonjour à toutes et tous. Nous serons en ligne dans un instant avec notre correspondant Russie Sylvain Tronchet après la mort ce matin à Moscou dans l'explosion de son véhicule d'un lieutenant général russe. Également au sommaire, une première en Suisse, un tribunal accepte de juger un litige environnemental opposant les habitants d'une île indonésienne au cimentier Holcim. Précision depuis Genève de Jérémy Lanche. Une récurrence en France, les consultations de Matignon. Sébastien Lecornu passe la journée en effet à recevoir les responsables des partis politiques, exception faite du RN et de LFI, encore et toujours au sujet du budget de l'État dans l'impasse. Le distributeur Grand Frais vient de passer sous pavillon américain. Le fonds d'investissement Apollo va réaliser 3000 à 3500 embauches l'an prochain en France. Explication de Valentin Grille. Enfin, les invités du journal de Midi et demi toute cette semaine aborderont le thème suivant, le patrimoine au défi de la restauration. Et pour commencer, nous nous pencherons aujourd'hui sur un des acteurs majeurs en France, le CMN, Centre des Monuments Nationaux. Sa présidente Marie Lavandier a donné un entretien à Benoît Grossin. Porter la guerre dans la capitale du pays ennemi, un acte qui, selon la doxa des écoles militaires, marque les esprits. Eh bien, Kiev, qui est régulièrement ciblée et atteinte par les forces russes, pourrait avoir donné la répartie. Une certitude, le véhicule du lieutenant-général Fanil Sarvarov a explosé à la sortie d'un parking à Moscou. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Mathieu.
Sylvain, il s'agit du chef de la direction de l'entraînement opérationnel de l'état-major russe.
Oui, les images qui ont été diffusées par les autorités russes ce matin montrent une voiture dont l'habitacle a été totalement détruit, particulièrement au niveau de la place du conducteur, dont le siège a été littéralement arraché, comme si une bombe avait été placée à l'avant de ce véhicule. Le général Fanil Sarvarov venait de démarrer, partait de chez lui, tôt ce matin. Il quittait le parking de sa résidence dans le sud de Moscou où habitent d'autres officiers de haut rang quand sa voiture a donc explosé. Très vite, le comité d'enquête, qui est le principal organe d'enquête russe répondant directement au Kremlin, a confirmé l'identité de la victime. Les autorités ont également évoqué la possibilité que cet attentat soit l'œuvre des services ukrainiens. Il faut dire que deux autres généraux ont déjà été tués dans des assassinats ciblés à Moscou. Il y a un an, le général Igor Kirillov, qui était le chef des forces de défense radiologique, chimique et biologique, était mort dans l'explosion d'une trottinette placée devant l'entrée de son immeuble. Et puis en avril dernier, le général Yaroslav Moskalik, lui, avait été tué dans l'explosion de sa voiture, lui aussi dans la banlieue de Moscou. Si cet attentat était revendiqué par Kiev, cela confirmerait donc la capacité des services ukrainiens à agir en profondeur sur le territoire russe, des services qui viennent notamment ce matin de revendiquer, vidéo à l'appui, la destruction par un commando de deux avions de chasse ce week-end sur l'aéroport de Lipetsk, à plus de 200 km de la frontière.
Merci à vous, Sylvain Tronchet, en direct de Moscou. L'armée ukrainienne annonce, elle, qu'elle s'efforce de repousser une tentative de percer des troupes russes dans une zone frontalière de la région de Soumy, au nord-ouest du pays. La région portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a de nouveau été visée ce lundi par des frappes qui ont endommagé des infrastructures énergétiques et maritimes. Selon Bangkok, des discussions avec le Cambodge se tiendront après-demain pour tenter de résoudre un conflit frontalier qui a fait plus de 40 morts depuis deux semaines. Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères avance que l'accord de cessez-le-feu, signé en octobre sous l'égide du président américain Donald Trump et depuis suspendu, avait été, je cite, « précipité ». L'ère de la guerre, j'emprunte à Jean Hatzfeld, au large du Venezuela où patrouille l'armada américaine qui scelle un blocus naval dont se targue la Maison Blanche. Les États-Unis poursuivent dans les Caraïbes un pétrolier qui, selon Washington, à la demande du régime de Nicolas Maduro, participe, je cite, « au contournement illégal des sanctions ». Fin de citation. L'armée américaine a déjà saisi deux navires lors d'opérations que Caracas qualifie de piratage, de vol et d'enlèvement.
Pour la première fois en Suisse, un tribunal déclare recevable une action en justice contre une multinationale en lien avec le changement climatique.
La multinationale, c'est le cimentier suisse Holcim. L'action en justice est menée par les habitants de la minuscule île indonésienne de Paris, en mer de Java, qui pourrait être engloutie d'ici 2050 à cause des activités de cette entreprise, grande émettrice de gaz à effet de serre. En effet, les fours à haute température pour cuire le calcaire et fabriquer le ciment brûlent généralement du charbon et les réactions réaction chimique elle-même génère du CO2 supplémentaire. Les habitants de Paris qui ont porté plainte en 2023 demandent réparation. Les précisions depuis Genève de Jérémy Lanche.
Le tribunal du canton de Zoug, où est domicilié Holcim, a largement validé les arguments des habitants de l'île de Paris. Il reconnaît que les plaignants menacés dans leur existence ont droit à une protection juridique, quand bien même Holcim n'a pas d'activité en Indonésie. Ça ne change rien, explique Sébastien Duic, juriste au Centre international pour le droit de l'environnement.
Là, on a une victime qui est caractérisée. L'île est en train effectivement de disparaître, la pêche est affectée, tout ça. Et puis de l'autre côté, on a une compagnie responsable quand même pour une part assez importante des émissions mondiales. Là, on parle de 0,42%. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup comme ça comme chiffre, mais c'est à nouveau deux fois les émissions cumulées de la Suisse.
En face, l'entreprise Holcim estimait qu'elle était injustement attaquée, alors qu'elle a réduit, selon elle, de moitié ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2015. La justice n'est de toute façon pas compétente pour définir des seuils d'émissions, disait le cimentier. Argument, là encore, rejeté par le tribunal.
Ce que les pollueurs ont demandé depuis des années, c'est une certaine forme d'impunité en matière de changement climatique. Et c'est ce que le tribunal a refusé en disant non, on ne peut pas rejeter une affaire comme ça juste parce qu'il s'agit de changement climatique.
Ce n'est pas la première fois qu'une cour de justice en Europe accepte une plainte pour atteinte au climat. Des affaires similaires ont eu lieu en Allemagne, par exemple, mais c'est une première pour la Suisse, un pays qui abrite de nombreuses multinationales, potentiellement grosses émettrices de CO2. Holcim a annoncé de son côté qu'elle allait faire appel.
Un autre enjeu que celui du stockage des déchets industriels, en l'occurrence ceux définitivement confinés dans un sarcophage de béton dans les anciennes mines de Stockamine de Wittelsheim, près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Il y a là 42 000 tonnes de déchets dangereux, cyanure, arsenic, amiante, à proximité de la plus grande nappe phréatique d'Europe. Depuis le début de la matinée, 8 militants écologistes du collectif Extinction Rébellion comparaissent devant le tribunal de Saverne pour un tag peint sur un pont à proximité du stick du site de stockage, le tag Stockamine contamine. Une information cette fois que l'on doit à nos confrères de France Info, le distributeur Grand Frais va réaliser 3000 à 3500 embauches l'an prochain en France. La marque est passée il y a quelques jours sous pavillon américain, une transaction estimée à plus de 4 milliards d'euros. Grand Frais veut ouvrir 25 magasins, notamment en centre-ville, rien que sur l'année 2026. Bonjour Valentin Gris.
Bonjour Mathieu.
Valentin, le fonds d'investissement Apollo a flairé l'une des enseignes les plus rentables du secteur.
Et oui, Grand Frais dégage 11 700 euros de chiffre d'affaires par an et par mètre carré, ce qui ne dit la valeur de l'entreprise qu'au regard des autres acteurs du secteur. Leclerc est deuxième à 10 800 euros, Carrefour, Auchan, Monoprix ne dépassent pas les 7 500 euros. Et la dynamique commerciale de Grand Frais est très ambitieuse sur un segment pourtant déjà mature. Le chiffre d'affaires grossit de 15% par an. Le groupe prévoyait déjà une expansion avant ce rachat américain, grâce à la reprise de 32 magasins Jiffy notamment, qui seront transformés l'année prochaine. À moyen terme, le parc de 330 magasins devait déjà doubler.
À noter, Valentin, que Grand Frais a un fonctionnement atypique, loin des super et hypermarchés classiques.
Oui, Apollo met en réalité la main sur son principal grossiste, le groupe ProSol, lequel gère l'approvisionnement en fruits, légumes, produits laitiers notamment. Grand Frais est un groupement d'intérêt économique, une structure qui agrège plusieurs entreprises. Il y a donc des spécialistes de la viande, des légumes, du poisson regroupés sous une même bannière. ProSol n'est qu'une composante. Et c'est d'ailleurs l'une des principales interrogations autour de ce rachat. Le fonds américain est réputé plutôt interventionniste. Alors va-t-il être tenté de chambouler ce modèle commercial qui semble porter des résultats, mais reste très complexe par rapport aux autres distributeurs? En outre, Apollo n'est pas un spécialiste de l'alimentaire, mais un géant qui gère 900 milliards de dollars d'actifs, dont 14 en France, dans l'industrie, aluminium ou recyclage. D'ailleurs, Bercy veille, le rachat devra être validé et respecter les conditions fixées par le ministère de l'économie au titre de la souveraineté alimentaire française.
Merci à vous, Valentin Grille.
Des consultations ad libitum pour Sébastien Lecornu, une fois encore, afin de trouver une solution budgétaire au mois de janvier.
Et oui, le Premier ministre a vu ce matin les représentants du Parti Socialiste. Ce midi, il échange avec les responsables du Bloc Central et cet après-midi, il rencontrera dans l'ordre les délégations du Parti Communiste, des écologistes et des Républicains. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Mathieu.
L'objectif reste le même, sortir de l'ornière le plus rapidement possible.
Au plus tard, avant la fin du mois de janvier, expliquait hier soir la ministre des Comptes Publics Amélie de Montchalin, et même dans les 15 premiers jours de janvier, renchérissait ce matin, toujours sur BFM, le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, le député Philippe Juvin. Cette urgence est due au fait qu'à partir de janvier, de nombreux élus vont entrer en campagne électorale en vue des élections municipales qui se tiendront mi-mars et qu'il deviendra, à mesure qu'on approchera de cette échéance, de plus en plus difficile de bâtir un compromis avec les formations politiques de l'opposition. Il s'agit donc d'aller le plus vite possible et le Premier ministre pourrait être aidé en cela par le fait que la plupart des parlementaires n'ont pas très envie de repartir dans d'interminables discussions budgétaires après les fêtes de fin d'année. À ce stade, les services de Matignon n'ont pas encore complètement écarté la possibilité de recourir à des ordonnances. Juridiquement, cependant, leur utilisation s'avérerait très contestable. Et donc, le plus probable est qu'on ait le vote d'une loi spéciale d'ici demain soir, qui autorisera l'administration à prélever les impôts et à payer les fonctionnaires à partir du 1er janvier. Les discussions aujourd'hui portent donc sur la possibilité de trouver un accord pour le début du mois de janvier. Et on n'est plus a priori sur un accord qui permettrait d'obtenir une majorité de députés en faveur du budget, mais sur un accord de non-censure du gouvernement, avec des appels de plus en plus nombreux chez les parlementaires à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Pour ça, c'est encore une fois avec les députés socialistes qu'il convient de discuter en priorité. Et c'est sans doute pour cette raison qu'ils aient été reçus en tout premier ce matin à Matignon.
Stéphane Robert, ce qui a divisé les parlementaires, c'est la répartition des efforts à faire pour redresser les comptes publics. Dans ce débat, les aides aux entreprises, évaluées à 211 milliards d'euros annuels par un rapport du Sénat, ont souvent été présentées par la gauche comme une manne possible. Ce que conteste en partie François Eckhall. Dans une note récente publiée sur son site Fipeco, l'ancien haut fonctionnaire passé par Bercy et la Cour des comptes a fait des calculs. Et même en intégrant ces aides, la France est le pays qui taxe le plus les entreprises dans l'UE, derrière Chypre et la Suède.
Toutes ces mesures dérogatoires, voilà, que ce soit les taux réduits de TVA, les allègements de cotisations, on peut s'interroger sur leur utilité. Hein. Je ne mets pas du tout en cause le fait qu'il y en a qui sont plus ou moins utiles, plus ou moins efficaces, etc. Mais en pratique, politiquement, c'est très compliqué. Ce que je dis simplement, c'est que, au final, les prélèvements effectivement payés par les entreprises nous situe dans les premiers de l'Union européenne. Donc s'il n'y avait pas tous ces dispositifs, ben, on serait totalement hors concours. Et puis même si on tient compte des aides directes, on reste les troisièmes.
Vous notez-vous aussi quand même que sur longue période, les prélèvements obligatoires sur les entreprises ont plutôt tendance à baisser et les aides à augmenter.
Oui, il y a cette tendance sur le long terme. Mais malgré cette tendance, en comparaison internationale, on reste quand même dans les premiers. Et quand on a des niveaux de prélèvement supérieurs à ceux de la plupart de ses voisins et concurrents, ça finit quand même par poser des problèmes de compétitivité. On a un déficit récurrent de nos échanges de biens et services, donc il ne faut pas aller trop loin. On peut sûrement encore raboter un peu le crédit d'impôt recherche, faire des économies sur les allègements de cotisations sociales, mais il ne faut pas aller trop loin. Donc si on veut augmenter les impôts, c'est plutôt sur les ménages que sur les entreprises.
Voilà l'économiste François Eckhall, des propos recueillis par Marie Viennot.
Les invités du journal de 12h30 toute cette semaine sur le thème du patrimoine au défi de la restauration.
Et pour commencer, nous nous penchons comme prévu aujourd'hui sur un des acteurs majeurs en France, le CMN, Centre des Monuments Nationaux, gestionnaire de l'Arc de Triomphe, de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, ou encore du château et des remparts de la cité de Carcassonne, avec 11 millions de visiteurs par an. Le CMN se présente comme le premier opérateur public, culturel et touristique de France. Et pour mieux prendre soin de ces quelques 110 monuments, il entend aujourd'hui redonner la priorité à un entretien plus régulier. Notre invitée, Marie Lavandier, la présidente du CMN, entretien mené par Benoît Grossin.
Marie Lavandier, bonjour.
Bonjour.
Avec le projet stratégique CMN 2030 lancé cette année, vous entendez opérer un véritable changement de paradigme dans la restauration des monuments nationaux.
Oui, alors en effet, on s'est posé collectivement la question, hein, puisque CMN 2030, c'est un projet participatif qui a impliqué à la fois les équipes du Centre des Monuments Nationaux sur ces 110 sites dans toute la France, mais aussi ses partenaires, parfois même les publics. On a travaillé sur un constat qui est implacable et d'ailleurs qui dépasse le périmètre des monuments qui nous sont confiés, qui est qu'aujourd'hui, on a affaire à une espèce de fin de cycle qui correspond à une manière de restaurer les monuments historique, notamment dans les années 80 et 90, et qui appelle aujourd'hui des réinvestissements majeurs dans le patrimoine français, et même d'ailleurs dans des architectures justement qui datent des années 80 et 90. Dans un contexte budgétaire qui est évidemment un petit peu complexe, on s'est interrogé pour essayer de trouver une voie de réponse à ces besoins majeurs en investissement, et on a travaillé donc sur l'émergence, ou plutôt la réémergence d'autres manières de s'occuper des monuments que ces très grosses opérations, très visibles, hein, de restauration dites fondamentales, qui permettaient, quand on en avait les moyens financiers, donc de remettre en quelque sorte à niveau la totalité d'un monument, au profit de pratiques plus douces, plus régulières, qu'on qualifie d'écologie de la conservation, qui repose en fait sur le retour de logique d'entretien régulier, d'une part, donc ça c'est une première chose, et d'autre part, sur la mise en œuvre de cycles plus longs, à travers par exemple des schémas directeurs qui reposeront sur des opérations étalées sur une quinzaine d'années. C'est le cas par exemple au château de Rambouillet, c'est le cas au Mont-Saint-Michel, où nous travaillons sur un schéma directeur pareil d'une quinzaine d'années, des schémas directeurs donc qui s'inscrivent dans des temps plus longs et qui permettent d'éviter ces cycles finalement assez rapides de retour en grosse restauration.
Cela veut dire un changement de budget, davantage de budget pour l'entretien ?
Oui, absolument. Alors, ce qui est assez compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on a 23, 25 millions pour la restauration, à proprement parler. Donc, ces reprises fondamentales de l'état de nos monuments, confiées aux architectes en chef des monuments historiques. Et puis, on a 7 millions à peu près pour l'entretien régulier de nos 110 monuments. Les deux budgets sont évidemment très insuffisants. Mais ce qu'il s'agit de faire petit à petit, c'est d'arriver à les rééquilibrer. Pas du tout en baissant les budgets de restauration au profit des budgets d'entretien, mais bien en cherchant et en trouvant les moyens d'augmenter nos budgets d'entretien. On parle de quelques dizaines de millions d'euros à dégager. Donc nous sommes à l'œuvre pour évidemment réussir à trouver une solution de financer ce nouvel entretien, mais sachant qu'à terme, c'est évidemment quelque chose qui va engager une possible baisse de nos budgets de restauration.
Et il est nécessaire, selon vous aussi, de réengager les habitants, autrement dit d'impliquer tous les acteurs.
Oui, alors ça, c'est quelque chose à quoi on est très attaché au Centre des Monuments Nationaux. Impliquer les habitants, y compris d'ailleurs dans ce que nous faisons sur les monuments, mais aussi dans ce que nous faisons des monuments en termes de création d'usage, en termes d'esprit, des parcours proposés à la visite. Donc, comment on fait ? Ben, on travaille avec les habitants dans le cadre d'ateliers participatifs qui peuvent leur permettre d'intervenir. Je pense par exemple au château de Maison, par exemple, la Maison Lafitte, où les habitants ont pu intervenir sur le projet muséographique, en quelque sorte, que nous préparons au château.
Comment aussi, sans budget supplémentaire, le CMN peut-il participer et même être le moteur du projet de National Trust à la française que relance la ministre de la Culture, Rachida Dati ?
Alors, c'est un petit peu compliqué de répondre, puisque vous le savez, le projet n'est pas entièrement abouti aujourd'hui en termes de décision. Mais effectivement, à la demande de la ministre, on a pu réfléchir à ce sujet du National Trust à la française. Évidemment, se rendre en Grande-Bretagne, voir comment fonctionne le National Trust britannique. Évidemment, dans un contexte qui est très différent du nôtre, dans un contexte qui est un contexte privé, mais dans un contexte qui repose non seulement sur un fonds financier très important, hein, mais aussi sur une mobilisation majeure de bénévoles, avec 50 000 bénévoles, et puis surtout sur 5 millions de membres, donc un Britannique sur 8 qui est membre du National Trust britannique. Donc c'est un petit peu dans ce sens qu'on a réfléchi, évidemment sur l'implication des habitants, mais aussi sur ce qu'est finalement le modèle patrimonial français, qui repose aussi bien sur les propriétaires privés que sur des propriétaires publics, et qui repose sur un certain nombre d'associations et de fondations, toutes différentes, toutes plus formidables les unes que les autres, qu'il s'agit peut-être plutôt de fédérer et d'articuler, plutôt que de créer un énorme établissement, ce qui n'est, je crois, pas du tout l'idée de la ministre de la Culture. Et l'objectif, c'est bien de voir comment, effectivement, le Centre des Monuments Nationaux, mais aussi toute cette fédération d'acteurs, peuvent aujourd'hui permettre d'augmenter leur impact au service des 46 000 monuments protégés en France et de leurs propriétaires. Donc le projet de National Trust à la française, c'est aussi comment on peut accompagner autrement qu'en prise de gestion complète, si vous voulez, des lieux qui en ont besoin, que ce soit sur de l'accompagnement en ingénierie, peut-être en assistance à maîtrise d'ouvrage, en développement touristique évidemment, et puis peut-être même un jour en partage de notre marque.
Merci Marie Lavandier.
Avec plaisir.
Et merci à vous Benoît Grossin, votre dossier complet sur le projet stratégique CMN 2030 du Centre des Monuments Nationaux est à découvrir dans la rubrique L'Info Culturelle sur le site internet de France Culture. Demain, nous aurons pour invité Alexandre Juglaris, le directeur général de la Fondation du Patrimoine. Quelques mots de la météo de l'après-midi sur le littoral atlantique, alternance de périodes ensoleillées et de passages nuageux. Dans l'intérieur des régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Pays de la Loire, en Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, du Grand Est, de la Bourgogne, Franche-Comté, au nord des Alpes, ciel le plus souvent couvert, mais le temps reste sec sur le reste du pays, des pluies continue, surtout en basse vallée du Rhône et dans le Var, de la neige en quantité sur les massifs. Ce journal a été préparé avec Alix Forgeau, à la technique Éric Perruchot-Triboulet.